Le rendez-vous avec Singapour en France, le festival. Venez découvrir la culture et les arts de Singapour à travers plus de 70 événements. Retrouvez toute la programmation sur singapour-lefestival.com.
Et tout de suite, le rendez-vous.
Je cherche la capture, je cherche le ravissement, le rapt, je cherche à être ravi par l'image, exactement comme dans l'épisode amoureux, on cherche inlassablement ce qu'on appelle vulgairement le coup de foudre, ou savamment l'énamoration. Devant l'image fixe, ce que je cherche, c'est l'énamoration, c'est le coup de foudre.
Et c'est Roland Barthes qui le dit ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture. Il sera question de photographie, de correspondance, de documentaire, de chorégraphie, de corpus et même de queer. Avec Valérie Jouve pour son exposition « Corps en résistance », portrait d'une photographe qui signe une œuvre politique avec une dimension documentaire qui n'exclut pas la mise en scène et le montage photographique. Manu Farine.
Retour sur une œuvre qui met en tension la manière dont l'homme et la femme se tiennent dans la ville ou comment enregistrer, dit-elle, une certaine intensité du monde vivant.
19h30, la chronique Vanity Fair avec Anne Boulay. Ce soir, il sera question de qui, de quoi, Vanity ?
Je vais vous raconter le côté obscur de la force.
Très bien. Et puis, plateau Eros avec Éric Marty qui signe Roland Barthes album, Les Inédits, la correspondance. Un nouvel éclairage sur une œuvre du temps retrouvée en cette année du centenaire de la naissance de Roland Barthes, Manou.
Et un troisième roman pour Éric Marty, roman d'espace et conte cruel ou comment rejouer la figure d'Eros dans un village français.
Mais tout de suite, c'est l'actualité culturelle, le journal de la culture de Zoé Sfez avec, bien sûr, le son du jour.
One time and last for a lifetime and never let go till we're gone.
Vous êtes bien sur France Culture, bonsoir Zoé Sfez.
Bonsoir Laurent, bonsoir à tous.
C'est votre son du jour, pourriez-vous continuer son, comme ça?
On peut le continuer très longtemps, non, je vous en prie, je ne vous ferai pas cet affront, je ne suis pas Céline Dion, d'autant plus que c'est un son 1996 auquel aucun d'entre nous n'a pu échapper. My Heart Will Go On and On, chanson du film Titanic, interprétée par l'inénarrable Céline Dion, qui a été un succès planétaire. James Cameron, le réalisateur du film, ne voulait pas de chanson pour Titanic, mais le compositeur attitré, James Horner, l'a enregistrée en secret avec la chanteuse canadienne avant de la présenter au réalisateur, qui a été conquis, ma foi, nous aussi. James Horner, c'est ce compositeur, vient de disparaître dans un crash d'avion de tourisme en Californie, puisque voler était sa passion. Au-delà de Titanic, pour lequel il a reçu un Oscar, il a signé les bandes originales des plus gros blockbusters américains de ces 30 dernières années. Celles, je vous en cite quelques-uns, d'Avatar, du film 3, Apollo 13, Le Masque de Zorro, Les Légendes d'automne, et bien sûr, j'en passe. Au total, il aura signé plus de 400 partitions pour le cinéma américain.
Vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Oh la vache, oh j'en ai marre alors.
Décidément, c'est le jour des disparitions. On passe tout de suite au dossier du jour en hommage à la chanteuse et comédienne française Magali Noël qui s'est éteinte cette nuit à 84 ans. Inoubliable interprète de ce Fais-moi mal Johnny Johnny avec Boris Vian.
Oui, la chanson avait fait scandale absolument à l'époque. Je l'ai appris d'ailleurs en préparant ce dossier. Elle reste toujours interdite dans de nombreux pays aujourd'hui. Alors, née Magali Noël Giffrey à Izmir en Turquie, elle a été rebaptisée lors de son arrivée à Paris à 20 ans où elle a découvert d'un coup le Saint-Germain-des-Prés de ces années-là, comme nous l'explique François Angelier, producteur de Mauvais Genre sur France Culture.
Magali Noël, d'abord, c'est une époque, c'est celle de Saint-Germain-des-Prés, dont elle a été une des égéries les plus marquantes, aux côtés de Juliette Gréco et dans les parages et l'amitié de Boris Vian, c'est également une chanteuse. Donc c'est d'abord une époque, celle de l'immédiate après-guerre, de l'effervescence, de la bohème et de la folie hautement sympathique de Saint-Germain-des-Prés. Et ça, c'est un premier élément. Et elle a continué à faire des récitals de chansons jusqu'à la fin de sa vie. Enfin, elle était très marquée par cette époque et elle en a vraiment incarné là, le talent et je dirais le démon, on peut le dire.
De cette période, elle garde un grand amour de la chanson et du musical.
Oui, car si aujourd'hui le grand public la connaît surtout pour ses films et par sa carrière de comédienne. Elle a continué à chanter toute sa vie. Elle a chanté par exemple Prévert, monté plusieurs spectacles à Paris autour du poète et ce jusqu'à la fin des années 90. En 2010 encore, elle mettait en musique des textes non mis en musique inédits de son ami Boris Vian, comme le raconte le pianiste Hervé Salin, jazzman, qui l'a accompagné pendant 30 ans sur scène.
Elle me parlait beaucoup de Boris Vian qui pour elle était comme un frère. Et elle y tenait beaucoup à ce rapport fraternel avec Boris Vian. Parce que c'est à l'époque où elle commençait sa carrière. Et puis bon, ça a été assez fulgurant pour elle. Et en fait, je crois que Vian l'avait un peu placé sous son aile et lui servait un peu de protecteur. Elle avait à la fois ce côté un peu exubérant et très extraverti qu'on peut voir justement avec cette chanson C'est moi, Mal Johnny. Mais elle a aussi, il y avait aussi un côté très, très sensible et très, très subtil chez elle qui nous permettait de chanter des choses beaucoup plus graves. Parce qu'elle accordait énormément d'importance aux mots. Et je sais que quand on a travaillé notamment sur Prévert, on a fait des choses magnifiques et avec elle, on travaillait vraiment avec beaucoup de sensibilité.
Il ne faut pas oublier que très jeune, Magali Noël sera happée par le cinéma.
Oui, dès 1955, finalement, l'année de la sortie de cette fameuse chanson, Fais-moi mal Johnny, elle explose en parallèle dans Radia sur la Schnouf d'Henri Decoing. Elle va tourner de manière intensive en France, mais aussi évidemment en Italie avec Federico Fellini, dont elle devient l'une des égéries, puisqu'elle va tourner à la fois dans La Dolce Vita en 1960, dans Satyricon en 69, dans Amarcord en 73, grâce finalement à ce physique typique de ces années-là, physique de femme fatale, comme nous l'explique François Angelier, producteur de Mauvais Gens à France Culture.
Magali Noël, c'est une des plus grandes personnalités du film noir des années 50-60. On se souvient effectivement de son rôle de la secrétaire qui est la maîtresse de Gabin dans Razia sur la Schnouf, où elle était extraordinaire. Et puis dans Des femmes disparaissent, où elle se faisait, je dirais, flageller à coups de clé par un des très vilains messieurs qui hantaient le film. C'était une actrice talentueuse qui était servie, et d'un côté aussi desservie, par un physique qui était celui des créatures que l'on voyait sur les couvertures des thrillers américains des années 50, c'est-à-dire à la fois la femme fatale, la brune pulpeuse aux yeux de biche, et puis en même temps aussi la victime. Ce physique qui est toujours borderline a fait qu'elle est passée sans difficulté dans l'univers de Fellini, où toutes les femmes sont des mères castratrices, des aphrodites. Donc elle a pu servir ces deux univers, l'univers réaliste noir du polar et l'univers fantasmatique de Fellini.
Voilà, des films qu'on peut revoir. Et puis je rappelle que le dernier disque de Magali Noël, c'était en 2011 seulement. Il était très élégamment baptisé « À toujours ».
Peut-être des réactions de la part de nos deux invités, Éric Marty, Valérie Jouve. Éric Marty.
Oui, ce qui est fascinant, c'est le passé de la voix de Céline Dion à la voix de Magali Noël, parce que ce sont deux voix. Et on voit combien les voix aseptisées se sont substituées aux vraies voix, et combien la voix de Magali Noël sera peut-être impossible à produire aujourd'hui, tellement elle est spéciale, particulière, elle a un relief incroyable et une très grande beauté. Et c'est merveilleux de pouvoir l'entendre à nouveau.
Mais la voix de Céline Dion n'est pas si aseptisée que ça, Éric Marty. C'est un autre style, mais pas véritablement aseptisé. C'est un autre choix, c'est tout.
Oui, enfin, je la trouve personnellement complètement plate.
D'accord. Voilà. Valérie Jouve.
Je suis assez d'accord avec vous. Non, moi, c'est vraiment des années de mon adolescence. Hein. C'est chansons de Boris Vian. Et surtout, je pourrais dire que ma fille qui a 18 ans connaît très très bien cette chanson et l'apprécie encore beaucoup. Donc, c'est une chanson encore très actuelle.
On reste avec les brèves.
Oui, et on passe donc, on ouvre avec l'agence parisienne Moreau. Kusunoki, architecte qui a emporté aujourd'hui le concours d'architecture du futur musée Guggenheim à Helsinki. Art in the City, ce projet victorieux présente un groupe de pavillons rectangulaires et une tour qui ressemble à un phare. La construction de ce musée d'art contemporain n'est pas pour autant assurée puisque le conseil municipal d'Helsinki a autorisé le concours d'architecte, mais pas encore la construction qui dépendra des fonds privés rassemblés par la fondation qui soutient ce projet de musée.
Le journal L'Humanité en difficulté lance un appel au prêt.
Oui, je rappelle que L'Humanité avait déjà lancé une souscription auprès de ses lecteurs en novembre dernier. C'était la deuxième en 4 ans. En 8 mois, le journal a récolté 1 800 000 euros, un montant supérieur à l'objectif initial, mais qui a été insuffisant pour sortir de la zone dangereuse, selon le directeur du quotidien, qui, je rappelle, emploie 175 salariés et qui connaît une baisse régulière de sa diffusion. Il a donc aujourd'hui besoin d'un prêt de 400 000 euros qu'il promet de rendre avant le 31 mai 2016.
L'avant-projet de loi sur la liberté de création est jugé peu ambitieux par le CESE.
Exactement, le texte soumis par le gouvernement pour avis au Conseil économique et social et environnemental avant présentation au Conseil des ministres, prévu début juillet, est censé garantir, je cite, l'égal accès à l'ensemble des concitoyens à la création artistique, mais pour le CESE, il manque d'ambition, d'une ambition à la hauteur de cet enjeu démocratique qu'est la culture, déplore l'absence de programmation des objectifs et aussi le fait que les pratiques amateurs n'y soient même pas évoqué.
Eh bien, ils vont revoir leur copie.
Ils vont revoir leur copie, ils ont un petit peu de temps.
La dernière.
Je termine justement avec une histoire de copie, figurez-vous. C'est une histoire pas si drôle, mais un appel, une demande à l'aide que je relaie donc ici sur France Culture, puisque le vendredi 12 juin dernier, Lima, qui est une assez importante historienne franco-chinoise, rentrait de Pékin où elle avait fait la promotion de son dernier livre, Les travailleurs chinois en France dans la Première Guerre mondiale. Elle débarque donc à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, direction chez elle à Boulogne-sur-Mer.
Et elle se fait agresser
dans le RER B. Quelqu'un entre dans la rame et lui vole violemment son sac. Alors, l'agression, c'est très triste et manifestement, banalement, assez courant. Sauf que là, double tragédie. Non seulement elle est volée, elle avait des bijoux et beaucoup d'autres choses, mais surtout, elle avait, puisqu'elle revenait de Pékin et de sa présentation, absolument tous ses disques durs, toutes ses clés USB et son ordinateur qui contiennent donc l'essentiel de son travail accompli pendant ces 7 dernières années. Donc, notamment aussi le manuscrit, enfin le texte de l'ouvrage « La Chine et la Grande Guerre » qui devait paraître l'an prochain aux éditions du CNRS. Il n'y a pas d'autre copie de ce travail de recherche qu'elle a effectué pendant 7 ans. Et pourtant, c'est un travail extrêmement important, une perte inestimable, juge le président de l'association France-Chine Culture Interactive, puisque c'est la seule qui s'est intéressée aux Chinois qui sont arrivés en France dans les années 1916, et ils sont nombreux. Elle lance donc un appel pour essayer de potentiellement retrouver ces affaires-là, disant qu'elle est prête à payer et assez cher pour récupérer ces données. Si donc, Laurent, ou chers amis, vous avez contact dans la pègre, n'hésitez pas à relayer cet appel.
Est-ce qu'il y a des réactions à ce que l'on vient d'entendre ? Je vous voyais un petit peu presque terrorisé par cette nouvelle, non pas par l'agression bien entendu, mais aussi par la disparition comme ça d'un travail.
Ah bah oui, c'est quelque chose qui...
C'est arrivé à la photographe que vous êtes ?
Ça m'est arrivé.
De perdre des pellicules, ça.
Pas des pellicules, justement. C'est là où j'ai quand même beaucoup de chance. Mais effectivement, quand on ne fait pas les sauvegardes régulièrement, il m'est arrivé...
Ça devait être en
2003-2004, je ne sais plus, où j'ai perdu tous les scans HD de tous mes négatifs. Et je cours encore derrière. C'est-à-dire que j'en ai refait petit à petit, mais c'est quand même très cher à refaire... dans la totalité.
Je rappelle que vous êtes photographe. Éric Marty, un commentaire.
Je suis trop angoissé pour avoir de sauvegarde. Et donc, voilà. Mais finalement, tout créateur aujourd'hui, à cause de l'informatique, est menacé de tout perdre d'un seul coup. Et le papier était un merveilleux conservateur de la pensée et des images.
Oui, on pouvait aussi vous voler votre manuscrit.
Oui,
et là, c'était encore pire.
Non, c'est moins. La disparition est moins. Sans doute moins évidente. Il me semble que le papier se défend, résiste.
19-20, le rendez-vous, c'est sur France Culture.
Plateau Ville avec vous, Valérie Jouve, photographe, vidéaste, cinéaste pour une œuvre repérée au tout début des années 90 et qui a mis en place très vite une signature documentaire, mais d'une forme documentaire sur laquelle on reviendra. C'est moins...
Moins
facile que ce que je veux bien penser. Une forme documentaire. Des grands formats, souvent des personnages mis en scène, saisis dans leur mouvement, comme pour cadrer ou prendre la mesure de leur inscription dans l'espace urbain. Le Jeu de Paume à Paris vous consacre aujourd'hui une rétrospective. On y retrouve en 4 salles, façades, murs, figures, personnages, passants, paysages, des rues, des situations. C'est-à-dire tous les motifs que vous travaillez et les titres que vous donnez à des séries toujours en cours. D'ailleurs, je parle de séries, mais le terme est impropre. Vous préférez celui de corpus. Qu'est-ce que cela dit du travail ?
D'ensemble d'images. La série, pour moi, elle se finit. Elle est liée à un sujet très précis, une thématique précise. Et elle va, tourner presque autour de son sujet pour en livrer une série limitée. Enfin, je veux dire qu'il va être 4, 10 ou 12 images. Mais qui, à un moment donné, s'arrête dans un temps. Il y a une chose linéaire dans la série, pour moi. Maintenant, dans le corpus ou dans l'ensemble, c'est vrai que ce travail a été pensé dès le départ avec des typologies d'images, hein, comme les personnages, les façades, qui sont comme des éléments dont j'ai besoin pour travailler un espace à travers les montages des images qui viennent habiter ces espaces. Et que du coup, des façades, j'en fais encore, même si chaque corpus a beaucoup évolué dans le temps, Je veux dire, j'ai jamais arrêté les motifs, je dirais, les différents motifs du travail.
Alors, certains corpus courent depuis plus de 20 ans. Je pense par exemple au corpus des personnages auxquels vous accolez toujours un nom. On a par exemple, sans titre, et puis entre parenthèses, il y a marqué « Les personnages avec Josette », par exemple, puis 1991-1998. C'est d'ailleurs Josette qui a initié le corpus en 91. Quelle est l'histoire de cette photographie en couleur? Je vais dire très vite de quoi il s'agit. C'est une jeune femme en jean, un sac à l'épaule, arrêtée, cadré trois quarts, en train de crier, ou du moins la bouche est ouverte, comme pour proférer quelque chose. Un personnage, comme toujours, sur fond urbain non identifié. Quelle est l'histoire de cette photographie qui a initié tout un corpus, Valérie Jaune?
Alors, l'histoire de cette photographie, c'est déjà à un moment donné de tous ces gens que je pouvais rencontrer. Cette femme était une petite dame qui avait un métier qui était femme de ménage et qui en même temps avait une personnalité très forte, qui revendiquait sa singularité, qui ne voulait pas être autre chose que ce qu'elle était, d'après ce qu'elle disait. Maintenant, c'est une femme avec laquelle j'avais justement envie de travailler une idée très particulière d'un corps justement qui se tient debout et qui est vraiment dans un rapport à l'extérieur de d'elle-même, dans une force très puissante, quoi. Donc c'est cette idée de travail avec une bouche ouverte. C'est vrai que dans toutes les images, il y a aucune détermination des lieux, du geste vraiment qui est la finalité de l'image, quoi. Mais à un moment donné, c'est vraiment travailler des idées. Ces images travaillent des idées et non pas. Barthes d'ailleurs serait bien dans la conversation puisque il a quand même sorti un livre énorme qui s'appelle La Chambre Claire et qui m'embête beaucoup, même si j'aime énormément Barthes, dans le sens où la photographie dans ce livre prend vraiment la place de sa soumission à une indexation au réel, le punctum, le lieu que je vois et qui me fait penser à. Donc ce qui est assez beau de la part d'un littéraire devient une bible. Et enferme un peu la photographie dans un champ très restreint, qui est simplement l'histoire de Roland Barthes à la photographie.
Et vous, c'est quelque chose qui vous a arrêté ?
Ah, je n'ai pas aimé ce livre depuis le début, alors que j'adore les écrits de Barthes, et on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que
avant
c'est
le début de l'émission avec Éric Marty, spécialiste de Roland Barthes.
Et oui, parce que la photographie est un outil très très vaste, c'est très large. Quand on dit « je suis photographe », ça veut tout dire et rien dire. Je veux dire, la plupart des gens qui sont photographes ne sont pas des gens avec qui j'ai des grandes discussions à avoir. Mais ça peut être du reportage, ça peut être de la pub, ça peut être de la mode, ça peut être... Je veux dire, donc, la photographie, en plus, c'est quelque chose à ce lien quand même à la construction de l'image. Et l'image, elle vient avant la photographie. Et elle vient aussi avec la peinture, avec... Et du coup, le fait qu'on pose la photographie uniquement dans cette relation au réel dont elle serait le témoin...
Comme le fait Roland Barthes, oui.
Voilà, comme le fait Roland Barthes. Nous, peut-être photographes qui avons passé par ce statut de la photographie, mais qui l'avons ouvert à d'autres choses, dans une... difficulté à certains moments à pouvoir faire comprendre à un public que la photographie, il m'arrive à certains moments de dire à des gens, mais vous ne diriez jamais ça devant une peinture.
Éric Marty.
Oui, moi j'ai été voir deux fois l'exposition de Valérie Jouffe, que j'ai énormément aimée, pour des raisons précisément anti-barthésiennes, c'est-à-dire que Barthes a un rapport en fait à la photo comme fétiche. Le punctum, c'est précisément un lieu où il fétichise un détail qui est le détail qui vaut pour tout la photo. De sorte qu'au fond, le regard est presque absent chez Barthes. Il y a une sorte de fixation et de capture. Il parlait d'être capturé précisément, mais il n'y a pas le regard en tant qu'espace n'est pas là. Alors chez Valérie Jouve, au fond, ce n'est pas le punctum qui est présent, c'est le studium, justement. C'est l'étendue qui est magnifique et c'est une dimension pictorialiste qui est sublime de l'espace, de l'étendue, du corps dans l'espace. Et là, le regard est entièrement, je dirais, satisfait. Il y a quelque chose d'inépuisable dans les photos de Valérie Jouve qui est donc complètement à l'opposé de ce que Barthes définit lui comme la photo. Mais ce qui ne veut pas dire que, bon, Barthes est son point de vue, il y a voilà, sa cohérence. Oui, moi, je ne suis pas barthésien du tout.
Ça correspond vraiment à sa littérature, je dirais, alors, à sa manière de penser le monde, déjà. Ouais. Donc,
et ce que je dirais, il y a aussi presque de la fiction dans les photographies de Valérie Jouve. Ce n'est pas des séries, en effet, mais par exemple, les photographies très, très belles, les embouteillages, les voitures à l'arrêt, il y a une dimension du temps. Le temps est là, c'est ça qui est très magnifique, c'est que le temps est là. Ou alors les sorties de bureau, qui sont aussi des photographies merveilleuses, où les gens se ressemblent beaucoup, sont presque identiques, mais en même temps, il y a des petites différences, en même temps qu'ils sont là. Et là aussi, le temps est présent. Et donc, c'est tout un monde. Voilà, Valérie Jouve a un monde. Et peut-être que Barthes n'aurait pas pu habiter ce monde, sans doute. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un monde.
J'aurais aimé en parler.
Voilà, il y a un monde qui est là. Et puis, il y a tous ces lieux. Alors, ils sont pas. La Palestine, le Guatemala. C'est le seul lieu, d'ailleurs, qui est nommé.
Voilà. La Palestine, c'est le seul.
Les lieux ne sont absolument jamais nommés, indéterminés, sauf la Palestine. Ouais. Pour quelle raison, justement? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas pour que ce lieu-là soit nommé, Valérie Jouve, dans votre travail?
Alors, il y a d'autres images qui sont dans l'exposition qui s'est faite en Palestine, qui se sont faites en Palestine. Cette pièce qui est à la fin de l'exposition et qui est vraiment une pièce en soi, puisque c'était tout un travail un peu de reconnaissance d'un pays. Puisque le pays existe et la notion du pays existe bien avant la Société des Nations et que je reconnais un pays. Simplement, je suis photographe, je travaille beaucoup sur le rapport au territoire et que là, je veux dire, à un moment donné, ce problème s'est posé. Et j'avais envie justement de ne pas du tout être dans le rapport au conflit, mais qui pour moi, les représentations du conflit nourrissent le conflit et plutôt de produire un travail qui est à justement, en général dans mon travail, si vous voulez, je vais travailler la composition d'une façade pour l'idée de la façade, en général dans nos sociétés urbaines et dans... Donc il y a des images de la Palestine qui sont dans l'exposition non nommées, idées.
Non nommées, non identifiées.
Par contre, cette petite pièce, c'est vraiment... prouvé par l'enregistrement, alors c'est peut-être là du coup les images les plus documentaires que j'ai faites, c'est de traverser les six villes principales de Cisjordanie que je connais le mieux, sans aucun abord de savoir où je mettrais qu'est-ce que la Palestine. C'est vraiment le rapport que moi j'ai eu à ces villes, et par contre là elles sont nommées précisément, puisque tout le travail tend à montrer en quoi ce pays existe, puisque toutes ces villes, qui sont quand même des grandes villes, même Bethléem qu'on imagine comme un petit village, on sent aujourd'hui toute l'étendue de cette ville, et comment, avec six villes aussi différentes les unes des autres, parce que ce travail marque aussi les différences d'identité entre chaque ville, on peut après ça ne pas appeler la Palestine un pays.
Comment vous avez compris justement ce travail, nommé précisément Éric Marty? Vous qui avez un regard sur le conflit, justement.
Oui, absolument, oui. Mais je pense qu'il y avait quand même une décision forte. Et en même temps, ces photos ne sont pas du tout idéologiques. C'est-à-dire que le mot Palestine n'est pas là comme un drapeau, n'est pas là comme un manifeste, il est là comme un nom propre. Et ça qui est très beau, c'est que la Palestine est en effet un magnifique nom propre. Il n'est pas pour autant, justement, quelque chose qui renverrait à une affirmation idéologique. Et d'ailleurs, toutes ces photos sont très pacifiées. L'impression qu'on a, c'est l'impression de très grande beauté et un Orient qui est là, qui est entièrement d'une très grande sensibilité, d'une très grande précision aussi. Donc moi j'ai retrouvé, et puis la lumière, cette lumière magnifique de Palestine ou d'Israël d'ailleurs, mais cette lumière là elle est présente dans vos photographies et c'est ça que je trouve très beau, et donc c'est le nom propre, j'ai entendu ça comme une affirmation d'un nom propre et ça suffisait, une sorte de poétique du nom.
Manu Farine.
Valérie Jouve, ces corps que vous photographiez, donc il n'y a pas toujours des corps, il y a aussi donc des armes, des façades, des murs, mais en tout cas ces figures, ces corps sont installés dans un espace urbain en général qui semble comme documenter finalement un petit peu l'espace dans lequel ils se tiennent. Le titre de l'exposition au Jeu de Paume, c'est « Corps en résistance ». Sur quoi porte précisément cette résistance? À quoi? À qui?
Alors, on peut le voir assez rapidement dans la première salle, déjà avec cette normalisation, cette uniformisation, parce que je pense qu'on est dans un monde qui tend à être de plus en plus pauvre, dans le sens où on ne reconnaît pas certaines cultures, on ne reconnaît pas certaines langues. On parle des animaux, on perd des espèces sur notre planète. À un moment donné, c'est un monde que j'ai envie d'ouvrir à ce type de réflexion-là. Et comment un arbre, comment une façade peut tenir un corps ou ne pas le tenir. Comment une façade, d'ailleurs dans mes façades, elles sont pas toutes uniformes. Il y en a qui sont très corporelles et d'autres qui sont très lisses, quoi. Donc la résistance, c'est peut-être cette idée que la résistance à cette uniformisation ou en tout cas une planète de plus en plus pauvre, ce sera par le corps vivant, je dirais, puisque dans la dernière pièce de blues, je
qui est la pièce la plus récente, hein,
qui voilà, qui est la pièce la plus récente où on voit un personnage toujours de dos qui donne à voir des situations particulières, mais aussi un volcan, je veux dire un lac, des arbres. Donc ce travail petit à petit vient, mais aussi par le contexte, c'est-à-dire que je vis une époque et voilà, je la suis, je réagis à ce moment-là, mais je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment reprendre des espèces de réflexions sur qu'est-ce qui est vivant, quoi. Et le rapport au corps, quand j'ai voulu ce mot, déjà ce titre de corps en résistance, je dirais que c'était presque quelque chose que j'avais envie d'offrir dans le métro, parce que j'aime beaucoup les affiches du jeu de paume qui sont placardées dans le métro. Et avec cette image, j'avais envie de quelque chose d'un peu en mouvement, voilà. Et que ce soit un peu, alors pas un appel à la révolution, j'en suis pas là, mais quelque chose un peu de réveil de ces corps, parce que on a tous cette chose un peu dangereuse, je trouve, ce serait presque de ne plus nous sentir vivants, quoi. Et je pense qu'il y a des gens très malmenés par la vie sociale qui ont des problèmes avec ce rapport au vivant.
Qu'est-ce que votre travail doit à votre enfance près de Saint-Étienne, Valérie Jauvin?
Eh ben, peut-être la nature, déjà, et peut-être cette chose, il n'y a pas si longtemps, Martin Barré me disait que la ville de Saint-Étienne était un exemple pour lui d'une urbanité rurale. Et c'est peut-être effectivement cette chose que j'ai vécue à Saint-Étienne ou à Firminy, dans le sens où c'était des villes assez dures, plutôt très ouvrières, pas beaucoup d'argent. La sidérurgie, la métallurgie, la mine, ce sont pas des métiers très, très épanouissants. Et en même temps, toute cette population venait d'un lieu qui s'appelait la Haute-Loire, pour la plupart, ou de l'immigration. Et ces deux populations se rencontraient dans une ville qui a tout de la ville, hein, qui a toutes les stigmates de tout ce qui est une urbanité. Et pourtant, et je pense encore aujourd'hui, les gens sont très très attachés à ces valeurs. Moi, je pense qu'ils viennent du monde rural, quoi, vraiment, de la terre, de la, de, c'est des villes où on voit le paysage de plein de points de vue. C'est un lieu où il y a beaucoup de monts, de collines, donc on est très très vite à la campagne. Les jardins ouvriers sont restés. Je veux dire, donc, moi, j'ai grandi dans une... pas loin d'une barre HLM, et mes grands-parents avaient une barre HLM, et je veux dire, 500 mètres plus loin, il y avait un jardin ouvrier qui était assez vaste, dans lequel on allait pique-niquer, et qui était toute une histoire de... Oui, du monde campagnard, je dirais, de sortir le fromage de chèvre qui venait de chez la tante, machin, qui habitait en Haute-Loire. Donc, toute une espèce d'imaginaire, et c'est vrai que le début du travail a beaucoup cherché à
travailler
en noir et blanc, et les premières images en couleur de ces zones un peu de hors-ville ou des banlieues, ce qu'on appelle les banlieues. Et au début, la presse en parlait d'une manière qui m'énervait beaucoup, parce que c'était pas la banlieue d'aujourd'hui. C'est un espèce de ce rappel de l'utopie des banlieues qui a existé, qui politiquement était tenue, soutenue, et qu'à partir du moment où les politiques n'ont plus voulu et n'ont plus tenu cet objectif-là, qui était un objectif d'égalité sociale, je veux dire, les banlieues n'ont pas pu être autre chose qu'un enfermement.
Comme à tous nos invités, on vous a demandé un son qui vous a marqué, Valérie Jouve. Oh. Voici ce que vous avez choisi.
Deuxièmement, à dénoncer chez ce même peuple américain qui occupe toute la surface de l'ancien continent indien une résurrection de l'impérialisme guerrier de l'antique Amérique. Ici que le peuple indien d'avant-colon fut abjecté par toute la précédente humanité. Troisièmement, vous énoncez là, monsieur Artaud, des choses bien bizarres.
Identification de cette voix. Et la raison pour laquelle vous l'avez choisi, vous, la photographe que vous êtes, Valérie Jouve?
Alors la raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est que ça a été un vrai... Enfin, de l'entendre, ça a été une apparition à la radio qui m'a mais vraiment scotché au mur. Quoi, je suis
Antonin Artaud.
Antonin Artaud, c'est quelqu'un que je lis, c'est quelqu'un justement qui prône pour moi aussi cette intelligence de l'humain et qui n'est pas obligatoirement quelqu'un comme les autres hein, et qui a été beaucoup enfermé. Et c'est quelqu'un qui trouve abjecte la normalité. Je veux dire, qui trouve abject ce peuple, dirons-nous américain, mais qui est notre propre peuple, hein, le peuple américain, c'est nous aussi, qui, je veux dire, se sent obligatoirement le plus grand de tous les peuples et vient donner la leçon à des peuples qui, pour Artaud, sont peut-être bien plus civilisés. Et je serais peut-être pas en désaccord avec ce terme. Donc, Antonin Artaud, bah, c'est une figure que j'aime beaucoup parce que c'est une voix extraordinaire au niveau radiophonique. Voilà.
Dernière question, Manou.
Oui, juste à propos de ces images de personnages que vous photographiez, qui sont des images très, très construites, en fait, hein, qu'on imagine prises sur le vif ou en tout cas en mouvement, alors qu'en fait, elles sont mises en scène. Comment est-ce que vous vous seriez photographié vous-même ? Est-ce que l'autoportrait, c'est quelque chose que vous avez pu travailler ?
C'est drôle, je garde ça peut-être pour mes vieux jours, quand je pourrai plus me déplacer. Mais j'y ai pensé, effectivement, du fait que je photographie toujours les autres. J'ai horreur d'être prise en photographie, alors je m'empêche d'interdire aux gens de me photographier, parce que ça serait quand même très fort, cette chose-là. Mais je dirais que je travaille à la chambre, donc pour ce monde, puisque on a bien... J'ai eu du plaisir à entendre qu'on reconnaissait un monde. C'est un monde qui est malmené actuellement. Et que cette chambre est un outil que je travaille obligatoirement sur un trépied, qui me demande une vraie rigueur. Je peux pas être dans l'instantané. Et en même temps, je ne pense pas que l'instantané puisse donner aussi puissamment ce rapport au vivant, justement. Et j'ai beaucoup écouté des Rossellini, des Pasolini, et comment on met dans la boîte ce vivant, et même des Léonard de Vinci, qui ont vraiment fait étudier très très précisément la mécanique du corps pour arriver à redonner cette puissance dans une image arrêtée, puisqu'une culture est aussi arrêtée qu'une photographie. Et du coup, c'est toute une recherche, donc bien bien loin de son indexation, de reconstruire non pas le monde tel qu'il est, mais tel que je le vis, et du coup, que je peux le voir à New York, au Guatemala, en Palestine ou en France, quoi. C'est un monde qui me semble aller, là aujourd'hui, vers une direction qui me semble un peu dangereuse, quand même.
Le rendez-vous, la chronique.
Valérie Jouve et Éric Marty, on vous retrouve dans quelques instants, mais tout de suite, la chronique d'Anne Boulay, du mardi, pour Vanity Fair, dont on est partenaire.
Mais oui, alors sur la couverture du numéro de Vanity Fair de juillet qui sort demain, il y a une partie du casting du prochain épisode de La Guerre des Étoiles. Mais il n'y a pas Yoda, le maître Jedi qui enseigne à Luke Skywalker comment utiliser la Force. Parce que si vous avez réussi à suivre Star Wars et à ne pas vous perdre dans sa conception de la chronologie un petit peu chahutée, vous savez que cet être de petite taille qui brille par sa sagesse meurt dans l'épisode 3 de la trilogie 1, autrement dit, le retour du Jedi, non sans avoir imposé une syntaxe elle-même passablement bousculée. À l'intérieur du magazine, il y a une autre créature, grande par sa sagesse, sinon par sa taille, qui s'est elle-même distinguée par un style lui permettant l'honneur suprême d'être publié dans la Pléiade de son vivant. Cet écrivain, c'est évidemment, vous l'avez reconnu, Jean d'Ormesson.
Mais pourquoi lui ?
D'abord parce que l'auteur est un véritable hipster. Oubliez l'aristocrate qui fut directeur du Figaro sous Giscard. Place à Jean Do, un académicien.
C'est impossible. Vous avez raison, voilà, vous n'avez même pas à le
dire. Un académicien, je ne pourrais jamais y entrer.
Vous êtes vraiment un inconscient.
Un académicien cool. De droite, mais de bonne humeur, nonagénaire plein d'alacrité, qui a imposé la cravate en tricot et le port du mocassin pieds nus un demi-siècle avant les branchés, donc vous, Laurent. Comme Yoda, il parle à tout le monde, des chevaliers aguerris aux jeunes padawans. Depuis la création de la Pléiade en 1931, seuls 15 auteurs ont été admis de leur vivant. Gide, Malraux ou Kundera en font partie, mais Céline, par exemple, n'a pas eu cette chance. Derrière cet honneur dont il n'est pas question ici de discuter la pertinence, il y a en tout cas une stratégie que je vous laisse découvrir dans le magazine et dont la source se trouve rue Sébastien Bottin, siège social de Gallimard. Car Jean d'Ormesson, qui fait un tabac à chaque passage télé, est un auteur volage. La Pléiade est un formidable moyen de l'empêcher d'aller publier ailleurs. Je vous renvoie à la lecture de cet article pour apprécier la finesse de la tactique. Mais sachez qu'en tout cas, il ne boude pas son plaisir et a décidé de ne pas faire son Groucho Marx. Groucho Marx qui essaye de se faire admettre au sein d'un club anglais et qui, le jour où il y parvient enfin, démissionne immédiatement en disant qu'il ne peut pas faire partie d'un club qui accepte n'importe qui. Donc Jean Do est content, il aurait tort de ne pas l'être, lui qui a fêté ses 90 ans il y a une semaine. Et comme disait Yoda, quand 900 ans comme moi tu auras, moins en forme tu seras.
Une réaction de la part d'Éric Marty sur la Pléiade des Jean d'Ormesson.
Alors moi j'ai fait un Pléiade, parce que c'est moi qui ai fait l'édition du journal de Gilles, la Pléiade, hein, donc travail de bénédictin, on pourrait dire. Mais j'ai jamais lu une seule ligne de Jean d'Ormesson, et j'ai un a priori assez négatif, qui m'a toujours empêché d'aller vers lui, mais peut-être ai-je tort. En tout cas, je ne peux rien en dire, parce que vraiment je ne l'ai jamais lu.
Mais il est question dans l'article de l'épineux problème de la préface, et de l'appareil critique que Jean d'Ormesson a essayé d'évacuer le plus rapidement possible, mais qui finalement a été fait, malgré tout.
Je peux imaginer.
Le rendez-vous.
Plateau Eros avec vous, Éric Marty, écrivain, essayiste, professeur de littérature française contemporaine à Paris 7, éditeur des œuvres complètes de Roland Barthes, commissaire d'une exposition actuellement à la Bibliothèque nationale de France sur Roland Barthes. On va revenir sur Barthes, dont vous éditez une partie de la correspondance, mais vous publiez dans le même temps votre troisième roman au seuil, La fille. Et la fille qui donne son titre au livre, eh bien c'est Claudie, entre créature et trésor, garçon et fille, dans une commune misérable, Landan, dans le nord de la France. Claudie, au cils blond, long, est l'objet de tous les désirs, toutes les convoitises, de toutes les avidités, et va trouver dans le narrateur un producteur désirant. Je vais dire la première phrase parce qu'elle, vraiment, elle est plutôt très convaincante dans la manière d'ouvrir un ouvrage presque queer. Ça s'appelle « Le lavoir », ça c'est le titre du chapitre. « Dans le visage de Landon, à l'extrême nord de la France, celui qu'on appelait la fille était déjà depuis longtemps la proie de nombreux hommes. Il était la proie, un joli gibier. » C'est la première phrase que vous avez véritablement écrite.
Absolument, et je pense que sans cette première phrase, je n'aurais pas pu écrire le roman. C'est-à-dire qu'il est, c'est réellement là une expérience très très forte où une première phrase programme toute une suite. Et il y a quelque chose de tellement poétique, en fait, là-dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas une imagination de situation, ce sont des mots qui, se construisant, ont donné cette espèce de situation très ambiguë, parce que qui parle dans la première phrase, c'est le narrateur, bien sûr, mais de quel côté est-il ? Un joli gibier, il est plutôt du côté des prédateurs, et en même temps, il sera un défenseur de Claudie, le garçon-fille. Donc, cette première phrase, elle était très enfin, je l'ai trouvé, une sorte de puissance qui m'a en tout cas poussé en effet à dans une direction, et j'ai écrit ce livre vraiment de manière presque hallucinée par cette première phrase, comme si j'étais porté par une sorte de première note comme ça. C'est pas les premiers coups de la cinquième symphonie de Beethoven, mais quand même, mais c'est en tout cas quelque chose qui, une forme d'ouverture, voilà, qui m'a beaucoup poussé, transporté dans l'écriture.
Anne Farine.
C'est une première phrase qui pose aussi le roman sous le signe du genre, hein, de façon très solide, évidente. Claudie est tour à tour désignée par il ou elle, hein, et vous maintenez vraiment cette tension et ce mystère tout le long du récit, y compris dans la façon dont vous éludez sans cesse la description de son sexe. Selon quelles règles, hein, si règles il y a, hein, littéraires ou symboliques, ou même narratives, est-ce que vous utilisez l'un ou l'autre, Éric Marty?
C'était vraiment sans règle, c'est-à-dire que justement vous faites allusion au fait que le sexe n'est jamais décrit. Il y a une scène importante, qui est une scène de striptease où Claudie est plus ou moins forcée de faire un striptease dans une auberge entourée de tous les mauvais garçons, en quelque sorte, du village. Et précisément, tout le monde veut voir le sexe de Claudie pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Il y a une sorte, on sait que c'est un garçon, mais on voudrait voir justement en quoi elle est aussi une fille. Et bien sûr, la lumière est là comme pour protéger, au fond, la beauté de Claudie. Et peut-être que c'est une forme de beauté au sens où son sexe ne sera jamais morphologiquement défini, de même qu'elle-même, il ou lui, n'a jamais de pronom qui soit entièrement défini. Il y a donc, la beauté est une sorte de protection contre l'identité ou contre l'identification, je dirais, fixe.
Alors justement, sans vouloir vous emprisonner en Barthes, est-ce que Claudie aurait à voir avec le neutre, Éric Marty?
Alors, je dirais que c'est presque l'inverse du neutre, c'est-à-dire le complexe. C'est-à-dire que, vous savez, Barthes, dans Le Degré Zéro, propose quatre éléments. Le positif, le négatif, le neutre et le complexe. Le neutre, c'est ce qui n'est ni masculin ni féminin, et le complexe, c'est ce qui est masculin et féminin.
Donc c'est le complexe.
C'est le complexe, voilà.
À nous.
Comme à tous nos invités cette saison, Eric Marty, on vous a demandé de choisir un son qui vous a marqué, et vous avez suggéré un son qui n'est pas forcément sans rapport avec le roman.
Vous allez entendre l'enregistrement de la radio roumaine. Ceaușescu, en plein discours, est interrompu par des sifflets et des slogans hostiles. Il va s'arrêter de parler, et la radio, pour que le peuple n'entende pas les sifflets, va diffuser des chants patriotiques. Écoutez.
Identification de ce son, Eric Marty, et pourquoi l'avoir choisi ?
Alors, on est le 23 décembre 1989, donc Ceaușescu fait un discours, et tout d'un coup monte cette immense clameur qui me fascine, que je trouve très belle matériellement, ce grondement de la foule qui va interrompre le tyran, qui parle jusque-là tout à fait comme un tyran, qui dit n'importe quoi, et qui est tout d'un coup muet de stupeur devant ce grondement. Et donc ça, c'est le bruit et la fureur de l'histoire. Et en même temps, ce bruit, ce grondement est aussi un bruit factice, parce qu'il semble que ce grondement, en fait, est organisé par des membres du Parti communiste qui veulent arrêter Ceaușescu. Et donc, c'est aussi une manipulation et non pas un grondement spontané. Donc, c'est aussi d'un côté le bruit de la fureur et l'autre, c'est l'histoire dite par un idiot qui ne veut rien dire. C'est-à-dire que c'est vraiment, pour moi, l'histoire totalement, c'est-à-dire totalement shakespearienne, où on a la violence pure de la masse, de la foule, et puis quelque chose de la fiction, de l'incompréhension, d'une forme de fiction de l'histoire qui est absolument identifiable. Alors si je l'ai choisi, c'est parce que je trouve ce son magnifique, d'une beauté incroyable. C'est la mer, c'est le vent, c'est la foule qui gronde comme cela. Et puis en même temps, derrière elle, il y a cette espèce de manipulation énigmatique du monde. Cette espèce de fiction de l'histoire, et en ce sens, il y a tellement de niveaux de réalité qu'on est complètement que fasciné.
Valérie Jouve, je vous voyais très attentive à ce commentaire.
Non, je me remémorais des choses à l'époque, un peu après de l'élection de Václav Havel, où j'étais à Prague et où cette clameur était d'une autre nature. Donc au moment où vous parliez, ça me renvoyait. Là, d'un coup, c'était vraiment une population qui sortait son manque de liberté, je veux dire, d'un coup. Et c'était très... Et en même temps, manipulé aussi, de fait, enfin, oui, par le mouvement de l'histoire.
Je mais cette clameur est aussi vraie qu'elle est fausse. C'est-à-dire que je pense qu'elle est aussi vraie. Elle a aussi une vérité totale. Mais en même temps... Il y a cette dimension donc où l'histoire n'est jamais totalement vraie. C'est ça qui est terrifiant, qui est magnifique, et qu'il n'y a pas de, il y a quelque chose donc de très trouble là-dedans qui moi m'habite beaucoup. Enfin, c'est vraiment un son que je trouve superbe.
Dans l'extrait justement, Eric Marty a choisi notre réalisateur Thomas Beau. Le son que vous avez demandé est raconté par le journaliste avant qu'on l'entende, et vous-même, dans votre roman, vous utilisez à plusieurs reprises ces effets d'anticipation, c'est-à-dire que le narrateur ne cesse d'annoncer ce qui va avoir lieu. Est-ce que c'est aussi une clé pour comprendre ce qu'est le roman pour vous, Eric Marty ?
Oui, sans doute, parce qu'au fond, le narrateur, en quelque sorte, est aussi un manipulateur, peut-être. C'est aussi quelqu'un qui aussi hallucine peut-être ce qui a lieu. C'est un roman qui est à la fois très réaliste, puisque Landon est un village du Nord avec une misère matérielle. Tout est décrit de manière assez précise, l'espace.
Oui, c'est vraiment un roman géographique.
Tout à fait géographique. Et en même temps, c'est un roman donc à la fois réaliste, mais en même temps complètement halluciné. C'est-à-dire que ce qui a lieu est aussi très fantasmatique. Donc c'est même fantasmagorique.
Très Klosowski, en fait.
Pardon ?
Très Klosowski.
Oui, absolument, Klosowski. Mais il y a aussi du côté un côté Bruegel, si j'ose me comparer à ce peintre. Mais en tout cas, il y a un côté, comme le Nord peut en produire. Cette espèce de dimension brutale, belle, horrible, enfin une sorte de mélange fantasmagorique du monde. Et donc, en effet, tout ce que vous avez dit est très juste, c'est-à-dire que le narrateur donc décrit ce qui est, mais l'anticipant donne à penser peut-être que c'est inventé. Donc il y a cette espèce d'instabilité totale de la fiction, qui est un peu la même instabilité que celle que Ceaușescu a vécue par ses grondements fantastiques de la foule. Et c'est vraiment tout à fait juste de les rapprocher. Je n'avais pas pensé, mais c'est vraiment une très belle idée.
Trois romans à ce jour. Le premier, Sacrifice en 92, Une longue pause, puis Le cœur de la jeune chinoise en 2013, puis aujourd'hui Une fille. Donc le rapport à la fiction s'accélère. À quel moment de votre parcours d'universitaire et d'essayiste a-t-il été temps de passer à la fiction? Il fallait attendre que Roland Barthes soit mort? Lui qui avait une défiance.
Absolument.
Ou une impuissance par rapport au roman.
Peut-être. Oui, défiance et impuissance. Je crois que les deux peuvent se superposer. Non, en réalité, c'est après avoir écrit le livre sur Sade, Pourquoi le XXe siècle a-t-il pris Sade au sérieux, qui est un énorme livre. Il me semblait que là, que j'avais fait quelque chose qui avait, au fond, atteint ses objectifs et qui avait quelque chose, en fait, de toujours un peu limité, au fond, dans le discours critique. Qu'est-ce qui est limité? Il manque l'inconnu, il manque l'imprévisible, il manque le mystère. Et je crois qu'un être humain est toujours pris d'intensité, d'énergie pour aller vers ces choses-là que sont l'inconnu, le mystère ou l'imprévisibilité. Et il me semble que la fiction était là, peut-être, pour m'offrir cette possibilité-là.
À nous.
Alors, dans le même temps, Éric Marty, vous établissez et présentez l'édition de l'album de Roland Barthes aux éditions du Seuil, publié à l'occasion donc du centenaire de sa naissance. Un album qui rassemble quelques inédits et une partie substantielle de sa correspondance. Queneau, Nadeau, Perret, Guibert, Robe Grillet, Butor, il y en a bien plus. Comment faut-il comprendre l'ouverture de votre avant-propos, hein, donc celui que vous signez, sur la voix de Blanchot?
Pardon, j'ai compris.
Vous commencez votre avant-propos.
Oui.
Par Blanchot, en
oui,
fait.
Oui, par Blanchot.
Comment faut-il comprendre cet avant-avant-propos?
Ah oui, parce que j'étais très touché par la correspondance entre Blanchot et Barthes, qui est reproduite en partie, et par les lettres d'amour de Blanchot, qui sont extrêmement affectueuses, qui sont très, très, très belles. Et il me semble que Blanchot a toujours été, pour Barthes, au fond, quelqu'un qu'il admirait, mais qu'il craignait peut-être un petit peu, avec qui il avait peut-être une forme de distance, et qu'il y a entre eux une très très grande complicité, une très grande amitié, mais peut-être une très grande ressemblance aussi, très profonde, peut-être une crainte justement liée à cette ressemblance. Et c'est pour ça que j'ai voulu réintroduire Blanchot comme au fond, le mot frère serait dur, en tout cas comme une forme de double ou de compagnon profond de Barthes. Et l'épigraphe que j'ai donnée donc à mon propos, où Blanchot parle de fragments de discours amoureux et induit l'idée qu'au fond, c'est le suicide de Werther qui est l'élément fondamental dans la reprise que fait Barthes de Werther dans ce fragment de discours amoureux. J'ai trouvé que c'est une idée magnifique et qui me semblait très belle pour ouvrir cet album qui est un album posthume, au fond.
Et vous, votre correspondance avec Roland Barthes, en croyant en voir quelques extraits, rien du tout?
Elle a brûlé.
Vous l'avez brûlée?
Oui, je l'ai brûlée. Oui, parce que... Il me semblait que conserver ce genre de choses, c'est quelque chose d'un peu angoissant, je trouve, toujours. Enfin, conserver les objets liés à un mort me semble toujours quelque chose...
C'est le problème de la correspondance. Heureusement que les autres n'ont pas fait la même chose que vous. À quel moment vous avez brûlé sa correspondance? Votre correspondance?
Il y a longtemps, il y a une quinzaine ou vingtaine d'années. Il me semblait que, j'avais des enfants. Je me suis dit, mais mon Dieu, quoi, ils vont, je vais leur laisser tout ça, non? Des livres dédicacés. Donc, j'ai mis tout ça à la poubelle. Sans aucun regret, parce qu'au fond, mon rapport avec Barthes est un rapport très, 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 très profond sur le plan humain, très vivant. Et il me semblait que des reliques, alors je ne suis pas du tout fétichiste pour ça, et en ce sens, je suis un peu anti-barthésien, il me semble que les reliques, les fétiches, portent toujours le mauvais sort. Et je voulais surtout pas que Barthes pèse sur moi comme un mauvais sort.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous ouvrez donc cet album de correspondance sur une correspondance dans laquelle il n'y est pas, puisque c'est la correspondance sur la mort de son père, donc Barthes, en 1916, lors d'un combat naval. Un père sans tombeau, écrivez-vous, héroïque à la fois présent et absent. Ce jeu de la trace et de l'effacement est caractéristique du palimpseste moderne, grâce auquel Barthes construit un art nouveau de l'autobiographie. En quoi la mort de son père, alors qu'il a écrit sur le deuil, le journal de deuil de sa mère, en quoi la mort de son père aurait été si déterminante dans l'art de l'autobiographie telle que Barthes l'aurait renouvelée, selon vous?
Je pense que le silence ou le rapport ironique qu'il a par rapport à son père mort est absolument, pour moi, décisif dans la manière dont il a construit sa propre vie, sa relation avec sa mère, sa relation à l'écriture, sa situation propre. Il me semble que l'absence du père, elle est vraiment très... Barthes, on parle de cette absence sur un mode justement très détaché, avec une forme d'héroïsme antipaternel. Il y a une fascination de Barthes pour le matriarcat, pour un monde matriarcal avec sa mère, sa tante, la sœur du père, qui est une figure qu'il aime beaucoup. Et je crois que Barthes a construit un univers imaginaire où le père ne peut être qu'exclu. Et il me semblait qu'en inscrivant justement ces lettres, qui sont très très belles, ces lettres d'officiers de marine qui écrivent à la mère pour raconter la mort du père, qui sont des lettres magnifiques, qui décrivent le combat, avec quelque chose vraiment d'un acte mythologique que je faisais.
Presque racinien, c'est le récit oui, Théramène.
Absolument, vous avez, oui, tout à fait ça, parce que le récit de la mort du père est très beau, il reste à la vigie, le bateau coule, il meurt, il va mourir, donc il va mourir en mer, son corps va disparaître, et quelque chose de très très beau, je trouve, parce que d'épique ou de théâtral en tout cas, en faisant un prélude à cet album qui décrivait la mort du père, historiquement, par des lettres de l'époque, écrites par des officiers français.
Comment, avec six villes aussi différentes les unes des autres, parce que ce travail marque aussi les différences d'identité entre chaque ville, on peut après ça ne pas appeler la Palestine un pays.
C'est la mer, c'est le vent, c'est la foule qui gronde comme cela. Et puis en même temps, derrière elle, il y a cette espèce de manipulation énigmatique.
Merci à nos invités. Valérie Jouve, Corps en résistance, c'est jusqu'au 27 septembre au Jeu de Paume à Paris. Éric Marty, Roland Barthes album et La Fille ont paru au Seuil. Et puis je signale l'exposition Les Écritures de Roland Barthes à la BNF jusqu'au 26 juillet, toujours à Paris. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain.
Isto é o normal, que não é normal, é este interminável rol de culpa e miséria, onde não há inocentes. Este encadeamento aleatório é uma coisa pegajosa que afunda e entristece a parte da merda, todos vós!
Demain, traduction au bord de la crise de nerfs avec une émission cinéma de crise et conte oriental avec le réalisateur Miguel Gomez. La désannonce, Anna.
C'était Le Rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Manu Farine, Aïssatou Endoy, Elsa Béranger et Anna Ogeber. Journal de la culture Zoé-Espèce, chronique Anne Boulet, à la prise de son Bruno Gagnère-Fontanil et Dauphard Guéride, à la réalisation Thomas Beau.
C'est une stagiaire et on l'a fait bosser. Il est 19h53, vous êtes sur France Culture, et c'est bien. Et tout de suite, je vous laisse avec Denis Podalydès de la Comédie Française. Alors bonne soirée à tous et à demain.